et je crois en mes photos, je crois en mes vidéos, je crois en ce que je fais. Je pense que c'est important de façon d'y croire et de pas se dire, bon, on verra si ça passe. Moi, j'ai 31 ans, c'est le moment où je me dis, il faut que je prenne des risques. Si je veux que mon métier me plaise, si je veux essayer de vivre de ma passion.
Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. En route pour le 3e épisode de la 12e saison. J'espère sincèrement qu'elle vous plaît toujours autant, et même si le format même du podcast ne permet pas d'avoir, comme sur YouTube par exemple, eh bien les réactions des auditeurs, je reçois des messages, souvent sur Insta d'ailleurs, des messages super sympas de personnes qui me disent adorer les interviews, donc c'est super, continuez comme ça si vous laissez des messages, ça fait très plaisir. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter en voiture, parce que vous me le dites, peut-être même qu'en ce moment vous y êtes dans votre voiture, alors soyez prudents. Pour ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas, et qui écouteraient pour la première fois mon émission, eh bien déjà bienvenue. Je suis Régis Moscardini, et une fois tous les 15 jours, j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent. Que ce soit dans le cadre d'une reconversion, par exemple, ou juste pour, dans un premier temps, se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Alors je lui pose plein de questions, pour que vous puissiez prendre de son expérience, vous en inspirer et, j'espère, concrétiser votre projet à votre tour. Je reçois aujourd'hui le photographe Guillaume Labergerie. Je devrais dire le photographe entrepreneur, voyageur Guillaume Labergerie, car il a ses trois cordes à son arc, et bien d'autres aussi, évidemment. Je devrais même encore dire, ajouter, voyageur éco-responsable. Alors, c'est vrai que l'éco-responsabilité est utilisée à toutes les sauces aujourd'hui et chaque marque y va de son produit dit éco-responsable et ça peut devenir agaçant à la longue. Mais à l'inverse, d'entreprises qui le font pour se donner bonne conscience, eh bien, la démarche de Guillaume s'inscrit réellement, sincèrement, j'ai envie de dire, dans un projet qui se veut le moins impactant possible pour l'environnement. Ce projet entrepreneurial est simple. Permettre aux photographes de vivre une aventure photo hors du commun, proche de chez eux, et non pas à des milliers de kilomètres. C'est exactement ce qu'il fait, ce qu'il a créé avec son produit XP Cube, alors il n'est pas tout seul, hein, vous verrez dans l'épisode, au cours duquel on va donc avec Guillaume parler photo, réel, voyage, et aussi, comme vous en avez l'habitude à présent, parler de business, de marketing et d'entrepreneuriat. Je vous laisse avec Guillaume, mais juste avant, ce qui serait génial, eh bien, c'est que vous laissiez un commentaire sympa et une bonne note sur Apple Podcast, si vous utilisez cette plateforme évidemment. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Guillaume.
Eh ben, bonjour Régis.
Je suis content de t'accueillir, alors je dis ça à chaque fois, à chaque fois pour mes invités, mais c'est la réalité de toute façon, je suis toujours très content d'accueillir une nouvelle personne dans le podcast, parce que c'est chouette de savoir qu'on va pouvoir partager plein d'expériences, de partager l'expérience auprès des auditeurs. Ça c'est quand même absolument génial, quand on y pense finalement tous ces outils là sont formidables quoi, hein, de pouvoir s'enregistrer comme ça, de pouvoir le diffuser au monde entier et que, de se dire que je sais pas, une personne qui habite à l'autre bout du monde puisse écouter ce qu'on est en train d'enregistrer nous à distance, quand on y réfléchit deux secondes on se rend compte que c'est assez fabuleux. Donc on va parler avec toi Guillaume, bien sûr de photographie, parce que tu es photographe, moi aussi, ceux qui nous écoutent le son, donc on va bien sûr parler photographie, on va aussi parler de voyage. Mais d'un genre un peu particulier, de voyage tout proche de chez nous. Voilà, donc on va essayer de... Donc à l'instant, je parlais de gens à l'autre bout du monde, bah justement, on va faire un peu le contraire là. C'est-à-dire qu'on va, parler de voyage tout aussi extraordinaire que ce qu'on pourrait faire si on partait très très loin. Mais justement, des voyages qui vont être tout proches de chez nous. Donc on va parler de ça. D'abord, on va parler photographie. Voilà ton parcours photo, de tout ce que tu peux photographier. La première question que j'ai envie de te poser, Guillaume, c'est juste savoir dans quelle région de France tu es là actuellement.
Moi, je suis entre Bourgoin et Vienne, donc un petit village qui s'appelle Moidieu-des-Tourbes. J'ai emménagé ici le 18 septembre dernier, donc c'est tout récent. Et sinon, avant, j'étais du côté de Grenoble, dans le Grésivaudan. Donc pas très loin des montagnes, entre Lyon et Grenoble, en gros.
Ok, donc tu t'es pas trop éloigné des montagnes, ça veut dire que tu es originaire, tu es un montagnard en fait ?
Non, pas du tout, je le suis devenu petit à petit, mais sinon j'ai grandi en région parisienne, du coup dans les Yvelines, et j'ai passé, 18 ans là-bas, et après je suis parti à Lille pour mes études, ensuite j'ai fait un petit voyage qui m'a fait découvrir un petit peu l'aventure et les montagnes, et je suis ensuite allé à Grenoble. pour le travail.
Donc, tu dis petit voyage, pas si petit que ça, parce que c'est un voyage qui t'a tellement marqué que finalement, tu as eu envie, de retour en France, de vivre, de revivre un petit peu ça à travers un nouvel endroit d'habitation, finalement.
Exactement. En fait, en 2015, donc après mes études, j'avais besoin de me découvrir un peu plus et de vivre ma vie, entre guillemets. Et je suis parti un an en Nouvelle-Zélande. Moi, je suis assez sportif de base. Donc, pendant ma jeunesse, j'ai toujours été sportif. J'ai fait du rugby, du foot, enfin plein de sports. Et je me suis cherché un challenge sportif. Et en fait, j'ai traversé l'île du Sud à pied de la Nouvelle-Zélande pendant 3 mois.
Dans le cadre de tes études ou c'était vraiment très personnel ?
Non, c'était très personnel. C'était vraiment à la fin de mes études et voilà, j'avais envie de prendre une année de break et du coup, je suis parti faire cette traversée donc que j'ai fait en 3 mois et ensuite j'ai voyagé un peu en stop. J'ai voyagé en van aussi quand ma sœur est venue me rejoindre. J'ai travaillé là-bas aussi dans des usines, donc avec les Maoris, c'est hyper intéressant. Et puis c'est vraiment la découverte d'un pays incroyable. J'ai eu la chance aussi d'aller en Australie vu que c'est à côté. Et voilà, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles cultures. Et c'était vraiment un bouleversement dans ma vie où j'ai pu découvrir un peu tout ce côté nature que j'adore maintenant.
C'est ce que tu appelles donc ce petit voyage, quoi.
Ce petit voyage, ouais.
Un voyage assez incroyable. Clairement, c'est le genre de voyage que tu peux peut-être faire finalement que quand tu as 20 ans. Que quand on a 40 comme moi, tu te dis que ça va être plus difficile de le faire seul comme ça. C'est quasiment impossible.
Exactement,
même avec la vie de famille qui s'est installée. Donc, tous ceux qui ont 20 ans qui nous écoutent et qui sont, je veux dire, 20 ans, voilà, enfin, 20 ans, 25, peut-être
la vingtaine,
30.
Ouais.
la vingtaine, entre 20 et 30, quoi, en gros. Et qui ont la possibilité de pouvoir partir finalement, j'ai envie de dire, facilement dans le sens où ils n'ont pas trop d'attache, ben c'est le moment, profitez-en pour ne pas avoir le regret après, une fois cet âge-là passé, de plus pouvoir le faire. Quoi.
Exactement.
Donc il t'a marqué ce voyage-là pour plein de raisons. Et quand tu es revenu en France, tu n'as plus eu envie d'aller à Lille, d'aller à Paris par exemple, tu as eu envie d'un autre endroit en fait, grâce à ça ou à cause de ça?
Surtout grâce à ça, je dirais. Et en fait, je suis rentré à Paris, du coup, c'était en janvier 2016. Et je savais pas trop quoi faire. Voilà, j'étais un peu perdu. Je revenais d'une superbe aventure d'un an. J'avais pas envie de retourner dans ma vie d'avant, où c'était un petit peu, on pense boulot, etc. Et du coup, je me suis recherché un nouveau trek à faire. Et c'est là où je suis tombé sur le site trekmagazine.com. Et ils avaient une annonce pour devenir commercial là-bas, donc dans la régie publicitaire. J'ai postulé sans trop savoir ce que ça allait donner. Et 5 jours après, j'étais pris, après un entretien. Et je suis parti vivre à Grenoble, là où je connaissais personne. J'étais jamais allé, j'avais jamais mis les pieds. Mais il y avait les montagnes. Ça avait un côté rassurant pour moi après ce voyage que j'avais fait. Et de là, j'ai découvert une région magnifique. Tout ce qui est nature, il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte que la France était vraiment belle, qu'il y avait plein de choses à faire et que la France mérite d'être visitée. On a vraiment un pays incroyable pour ça, quoi.
Est-ce que tu penses qu'aller un Australien ou un Néo-Zélandais, par exemple, qui imagine on a un Guillaume qui est néo-zélandais, par exemple, donc il ne s'appellera pas Guillaume, mais tu vois l'idée. Il vient en France pour les mêmes raisons que toi, tu es allé en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu crois que l'impact que peut avoir la France peut justement avoir cette même force que toi tu as vécu pour toi, est-ce que ça peut avoir la même chose pour lui en France, quoi, tu vois, est-ce que nous on voit ce grand truc néo-zélandais à l'autre bout du monde, exotique, incroyable, est-ce que tu penses que lui peut vivre la même chose en France?
Je pense que ce serait exactement pareil, ouais. Et que quand il reviendra en Nouvelle-Zélande, il se dira aussi, ah bah en Nouvelle-Zélande il y a plein de choses à faire. Et j'ai envie de découvrir mon pays aussi. Mais il y aura quand même ce côté-là, c'est de l'autre côté du monde, donc ça fait forcément un peu rêver aussi, c'est un peu, on part à l'aventure, l'autre bout du monde, on peut pas aller plus loin. Bon, bientôt on pourra aller dans l'espace, ce sera plus loin, mais voilà.
Il faut juste être millionnaire, quoi, mais c'est vrai que sinon on peut le faire.
Exactement. Mais je pense que ce serait exactement pareil pour le Guillaume néo-zélandais, ouais.
Ouais, certainement. Et c'est vrai que il y a cette fameuse expression, tu sais, qui dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, parce qu'en gros on a du mal à se satisfaire de ce qu'on a, et c'est vrai pour plein
c'est
de
ça.
Choses. Et donc on va parler de ça dans la deuxième partie de l'interview sur justement ce que tu fais actuellement dans le cadre d'Expé 3. Alors tu me diras exactement comment faut le dire.
Ouais, c'est Expé Cube. expliquer, voilà. C'est XP puissance 3, en fait, c'est la contraction de exploration, expédition, expérience, mais on y reviendra après, du coup.
Ouais, on va en parler longuement, parce que c'est une part importante de toi maintenant. Juste une petite parenthèse pour ça, c'est mon côté curieux qui ressort. Quelle est l'image, comment les Néo-Zélandais, ou les Australiens, parce que tu y allais aussi, perçoivent les Français en règle générale? Tu as ressenti quoi, toi, en disant, I'm French, et les gens nous perçoivent comment?
Ils sont hyper accueillants là-bas. Il y a pas mal de voyageurs, tout est fait pour voyager là-bas au niveau des infrastructures, ils développent vachement le touriste. Et c'est vrai que les Français sont quand même bien vus là-bas. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème en tout cas. Contrairement où il me semble en Australie, où ça j'ai plus entendu dire. Moi, quand j'ai passé un mois en Australie, j'ai pas eu ce problème-là. Mais apparemment, on est un peu moins bien vu qu'en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ouais. Il y avait beaucoup de Français qui partaient en Australie. Je crois qu'il y avait eu quelques soucis, mais rien de bien grave. Mais voilà, il y a une meilleure. Les Néo-Zélandais, ils nous aiment bien.
Bon, la photographie, Guillaume, comment elle rentre dans ta vie, comment toi tu as mis un jour les pieds dans le monde de la photographie, ça s'est passé comment?
Bon, en fait, moi, j'ai toujours été intéressé par l'image en tant que telle. Je me souviens, quand j'étais jeune, je sais pas, on devait avoir 10-15 ans, en voyage avec mes parents, on avait une petite caméra et j'aimais bien toujours filmer. Je me souviens, quand il y avait mon cousin, on se filmait tous les deux avec mon petit frère à jouer dans la nature, etc. J'ai toujours eu cette relation un peu avec les images, et quand je suis parti en Nouvelle-Zélande, du coup j'avais mon iPhone où je pouvais faire des photos, et j'avais un vieux bridge que ma mère m'avait donné, et c'est là où j'ai pu faire un peu mes vraies photos. Donc j'avais zéro technique, les photos rendent quand même bien avec l'iPhone, mais bon, elles sont peu exploitables. Même avec le bridge, elles étaient pas si mal, mais bon, quand je compare avec ce que je fais maintenant, c'est on se dit toujours j'aimerais bien y retourner pour refaire les photos.
C'est ça. Ce serait quoi, justement, les gros points d'amélioration que toi tu as eu quand tu regardes tes photographies de l'époque de Nouvelle-Zélande, sans l'expérience et la pratique que tu as maintenant? En gros, c'est quoi les trucs qui sautent aux yeux que tu te dirais, waouh, non, ça, je le ferais pas comme ça?
Ça va être le style dans les couleurs, les retouches où je me suis pas mal formé dessus, où j'ai réussi à trouver mon style depuis un an maintenant. Où je fais moins, je saturais trop mes photos, je trouve. Du coup, c'était surtout sur la partie retouche et aussi le coup d'œil, où je prenais des photos, mais un peu à la va-vite, sans me réfléchir à comment prendre la photo ou mettre un sujet. Est-ce que je mets un sujet principal dans la photo? Et ça, c'est à force de pratique, donc je me suis formé, donc avec toutes les théories, etc. Je te remercie d'ailleurs pour tous tes podcasts inspirants, tous tes blogs, tous tes articles qui m'ont été bien utiles. Et ça a été, ça m'a bien fait progresser là-dessus. Et maintenant j'arrive à mieux prendre de photos d'un point de vue technique et avoir l'œil, en fait, être là au bon moment aussi. Plus on va multiplier les temps avec notre appareil photo, plus on aura de chances de faire de photos.
Mais ça, c'est une règle absolument fondamentale, c'est sûr, hein, la fameuse phrase que je ressors peut-être 10 fois par semaine, être patient jusqu'à fatiguer la chance, on pourrait remplacer patient par persévérant, c'est ça en fait, hein. Donc je trouve cette phrase-là de Robert Reinhardt qui est absolument géniale, qui s'adapte à plein de thématiques, même dans la vie tout court, hein, pas que dans la photographie ni dans la nature. Et oui, donc tu as soulevé un point qui est important, c'est l'intention photographique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu le défaut finalement de tout débutant, c'est dès qu'on voit un truc chouette, on se dit « Ah, faut que je le photographie » sans avoir une autre intention derrière. C'est juste parce que c'est joli qu'on va le photographier. Bon, c'est déjà bien, c'est vrai, mais pas suffisant, il faut aller un peu plus loin, et c'est ce qu'on développe en fait. Il y a la technique qui permet de faire des photographies plus propres, plus nettes, mieux exposées, voilà. Mais derrière, c'est l'intention qui est super importante, c'est qu'est-ce que je veux photographier. Ok, le fait que ce soit joli, c'est pas suffisant finalement, hein. C'est juste qu'il faut prendre un sujet et choisir un sujet, choisir une thématique peut-être même, et puis et tout faire pour la mettre en avant, et la technique, elle est là pour mettre en avant notre choix photographique. Et tu fais pas mal de vidéos aussi, Guillaume, ouais. Parce qu'il suffit d'aller sur ton site, hein. D'ailleurs son site, hein, je le donne tout de suite, j'aurais peut-être même pu le faire avant, je l'ai sous les yeux, voilà, c'est guillaumelabergerie.fr tout simplement.
Exactement,
oui. Alors voilà, donc ton écran d'accueil, il est très simple, c'est photo, vidéo.
Ouais.
La vidéo, c'est jamais très loin de la photographie, c'est vrai, hein. Je connais pas mal de photographes qui font des vidéos, puis des vidéastes aussi, qui se mettent à la photographie. Mais pas toujours. Toi, ça a été quoi aussi l'élément déclencheur pour te mettre à la vidéo, pour en faire ?
Ça a été surtout les voyages que j'ai fait, toutes les aventures que je vis au quotidien, où j'ai envie, j'aime aussi ce côté qui bouge un peu plus que les photos. Même si les photos ça reste vivant quand même à mon sens, mais la vidéo ça permet d'avoir un impact peut-être plus grand aussi chez les gens. La vidéo c'est ce qui se développe de plus en plus, même dans la communication pour toutes les activités, etc. Et moi personnellement j'aime beaucoup réfléchir sur les prises de vue, comment je vais bouger ma caméra, comment je vais tous ces petits détails qui font qu'une vidéo fonctionne en fait. Tout aussi raconter une histoire un petit peu sur des vidéos de 2 minutes, il faut toujours créer des petites histoires, et ça j'aime beaucoup ce côté création en fait.
Ouais. Est-ce que tu peux faire des ponts entre la photographie et la vidéo, parce que pour moi la vidéo c'est justement créer une histoire, c'est scénariser, c'est vraiment penser. Alors on peut aussi penser en amont une photographie, on doit même le faire d'ailleurs, mais peut-être même encore plus pour la vidéo, vraiment avoir un storyboard, quoi, tu vois, plan 1, plan 2, séquence 1, séquence 2, une application qui est géniale, qui est très connue, c'est l'application iMovie, hein, sur ceux qui sont dans l'environnement Apple connaissent, et qu'on peut faire des espèces de petits films très courts d'une minute, tu vois, où l'application, justement, te mâche le travail. Et je trouve que c'est hyper formateur parce que tu vois carrément le storyboard vide. Donc, tu n'as pas mis des plans avant et donc c'est à toi de les mettre. Mais tu remplaces en fait ce qu'eux te proposent de faire. Par exemple, le plan numéro 1, tu as un plan large qui dure 2 secondes et demie. Tu as le plan numéro 2 qui va être un plan serré qui dure 3 secondes, tu vois. Et comme ça, sur une minute. Et donc, tu as juste à remplacer les plans vides. Mais du coup, tu te rends compte de l'importance du storyboard, en fait. Est-ce que toi, tu passes par ça ? On est dans la vidéo et plus dans la photo, mais est-ce que tu penses aussi à ça ? Tu réfléchis avant, tu vas l'écrire, tu vas le scénariser ?
Toujours avant une vidéo, enfin, en règle générale, dès que j'ai une vidéo à faire, je réfléchis exactement à l'histoire que je veux donner. Parfois, je réfléchis exactement à quel plan je veux mettre, donc si ça va être un plan large, un plan moyen, un plan serré. Je réfléchis à plein de petites actions à faire, donc ça peut être des choses bêtes, mais par exemple là j'avais fait une vidéo sur un séjour en rando, et donc voilà les petites actions qui vont être réalisées, ça va être le sujet qui prend une photo, donc on le voit à plan large, il sort son appareil photo de son sac, il vise avec son appareil photo, du coup là ça va être un plan serré, il appuie sur le petit bouton pour le déclencher, donc il y a aussi tous les effets sonores à rajouter. Et tout ça, il faut vraiment y penser. Donc après, ça peut être aussi quand j'allume un feu sur un bivouac, comment je vais le filmer. Il y a toute cette partie-là, la caméra, je vais plus la faire tourner autour du feu pour avoir un mouvement assez sympa. Maintenant, on a aussi les drones qui permettent de faire des images extraordinaires d'un point de vue aérien. Moi j'ai un drone, c'est le Mavic Mini, donc il m'a coûté 400 €. Donc pour 400 € on peut faire des trucs incroyables, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'équipement. On a vraiment l'impression qu'il faut acheter, etc., plein d'équipements pour faire des choses. Mais en fait, le plus important, c'est vraiment la créativité.
Ah bah cette phrase-là, elle est formidable, elle est essentielle, mais c'est clair que créativité, préparation,
et c'est pareil en photo. Hein.
Et c'est pareil en photo, exactement. Ce que je trouve magique finalement dans ce que tu viens d'écrire, à savoir créer son scénario, en fait, c'est que il peut te manquer des plans. Par exemple, il te manque le plan de l'allumage du feu. Tu peux le faire genre 2 semaines après. Et tu intègres ce plan-là dans ta séquence vidéo, et ça passe, enfin voilà quoi, tu as
ça
ton histoire
seul,
qui est racontée,
ouais.
Ça passe tout seul, parce que tu l'as prévu avant, tu l'as scénarisé. Moi je me souviens avoir interviewé il y a quelques temps de ça, un photographe vidéaste, alors j'ai oublié le nom, donc comme du coup je l'ai oublié, il m'en voudra pas, parce qu'il saura pas que c'est lui, mais en fait ce qui était bien, c'est que du coup il me disait, là je suis en train de créer mon film, il me manque certains plans, tu vois, en plein milieu du film, hein, et ouais. J'ai encore des sorties à faire de temps en temps, ça va me prendre encore quelques jours, parce que j'ai encore des plans de quelques secondes, tu vois, à intégrer dans mon truc, et voilà, donc je trouve ça assez magique, finalement, de pouvoir rajouter comme ça des plans
ouais.
À droite et à
ça
gauche.
Ça permet de compléter, et c'est pour ça que moi, à chaque fois que je pars en nature, etc., j'ai toujours mon appareil photo, et dès que je peux filmer des plans en plan serré, parce que c'est souvent ces plans-là qui nous manquent, ou... Enfin, dès qu'on a des plans à faire, moi j'essaye de me créer une banque d'images, en fait, une banque de vidéos. Donc voilà, on parlait du feu, j'ai plein de vidéos de différents feux de camp qui peuvent être utiles dans plein de vidéos différentes, quoi.
Ça me fait penser à un truc, du coup, qui est super important, et en photo et en vidéo. C'est comment dire la bibliothèque. Par exemple, tu me dis j'ai plein de photos, j'ai plein de vidéos, mais ça pourrait être pareil pour la photographie, hein, de ce type-là. Pour pouvoir être réutilisé quand j'en ai besoin, c'est très bien d'en avoir, c'est même plus important de pouvoir les retrouver facilement.
Exactement.
Tu vois, comment tu fais pour nommer, pour retrouver dans ta bibliothèque, justement, des plans ou des photographies qui vont être utiles pour illustrer telle ou telle chose. Alors, ça peut être des choses prises il y a des années, hein, mais tu les retrouves ouais. En quelques secondes. Comment tu fais?
Alors moi, je me suis vachement organisé là-dessus parce qu'avant, c'est vrai que quand on commence, on met nos photos dans un dossier et c'est la galère pour les retrouver. Et maintenant, je me suis créé, donc j'ai mon disque dur avec mes photos et mes vidéos. Et du coup, j'ai mon dossier photo. Ensuite, j'ai un dossier par année, c'est-à-dire que là, je suis dans l'année 2021. Et je vais avoir en fait par catégorie. Donc j'ai ma catégorie photo animalière, astrophotographie, mes photos d'équitation, mes photos pour XPcube, mes photos famille, mes photos outdoor. Et par exemple, dans outdoor, je vais retrouver ski de rando, randonnée, qu'est-ce que j'ai d'autre, raquettes, enfin tout ce que je fais dans l'outdoor. Et comme ça, je sais que je peux les retrouver. C'est pas vraiment par date et par période,
c'est
en
par
fait,
thématique.
Les classes, mais c'est par thématique.
Ok.
Et par année, parce que comme ça, je sais exactement, 2021, je suis dans ski de rando, c'était entre janvier et mars, je sais que je sais à peu près la date, quoi.
Est-ce que tu utilises aussi la géolocalisation de tes photographies pour pouvoir les retrouver facilement?
Je sais qu'elles sont géolocalisées, mais je l'utilise jamais.
D'accord.
Je n'ai jamais eu besoin. J'ai jamais eu besoin. Après, dans les dossiers, je marque souvent le nom du lieu aussi. Quand j'ai dans mon dossier ski de rando, par exemple, j'ai ma sortie à Champs-Rousses. Là, je marque quand même la date pour avoir un aperçu, mais elles sont toutes ces dossiers-là sont rangés dans ski de rando.
D'accord.
Et je sais que j'ai cette thématique-là.
Et un autre moyen aussi d'y arriver, c'est les mots-clés finalement, hein, de mettre, je sais pas, on parle de feu, donc feu, allumage,
ouais.
Briquet, de mettre plein de mots-clés comme ça, ce qui fait que toi. Quand tu as besoin de telle ou telle chose, tu as juste à taper le mot-clé. Alors, évidemment, il faut que les mots-clés correspondent. Hein.
Exactement.
Il faut que tu aies rentré auparavant ce mot-clé-là.
Ouais.
Mais ça peut être aussi un bon moyen de retrouver assez facilement. Même à l'extrême, on pourrait même quasiment ne rien classer du tout.
Et
juste mettre des mots-clés. Ça peut être aussi une façon de faire. Hein, voilà,
exactement.
De trouver
ça, je le fais pas encore trop, mais c'est vrai qu'il faudrait que je prenne un peu plus de temps pour le faire. Et peut-être que je le ferai pour mon dossier 2022.
Ouais, voilà, parce qu'après, le faire à rebours, hein, le faire a posteriori, c'est quand même
il
du
faut
temps.
Que ce
quoi.
Soit sur... ouais,
ça prend du temps, il faut mieux le faire,
faut
effectivement.
Que ce soit sur les prochaines photos, ouais.
C'est ça, exactement. Bon, on se doute, Guillaume, que tu photographies la nature, parce qu'on a parlé quand
ouais.
même pas mal de ça, tes voyages, ton lieu d'habitation, presque un peu te pousse finalement à aller vers là.
Ouais.
Quel genre de photographie nature tu fais au final? Parce qu'il y a plein de choses différentes.
Alors, ça a commencé par les paysages, la montagne. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est pas forcément en été, mais plus en hiver, avec la neige. En automne aussi parce que les couleurs sont incroyables et puis ce côté montagne où il peut y avoir du brouillard etc, j'adore sortir quand il fait pas très beau en fait, quand il y a des nuages ça ramène une ambiance un peu pesante que j'essaye de mettre un peu dans mes photos, du moins dans certaines. Donc là il y a tous ces côtés un peu paysage nature, et j'ai un peu commencé l'animalier aussi, donc c'est pas évident, je me suis formé, il faut faire les affûts etc, mais là je suis dans une région donc dans le Nord-Isère où c'est un peu propice pour ça, Et donc, voilà, je me développe un peu là-dessus. Donc, j'ai pris quelques chevreuils, voilà, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a vraiment ce côté où la photo est rare, en fait. Et il y a vraiment un côté challenge. Il faut aller la chercher sans trop déranger, bah, la biodiversité. Et voilà. Et puis, on est en pleine nature. C'est un agréable moment, quand même. Enfin, pour moi, en tout cas.
Tu dis sans trop déranger, et c'est bien de dire comme ça parce que de toute façon on dérange forcément. On a beau prendre toutes les dispositions possibles, le meilleur des meilleurs des affûteurs, je sais pas si le mot se dit, mais voilà des personnes qui pratiquent l'affût ou même la bibaud, hein, la fameuse avancée en mode un peu indien quoi finalement, il va forcément déranger. Donc non, c'est sans trop déranger, mais avoir conscience que de toute façon le simple fait d'être dans la nature, c'est déjà en soi un dérangement. Ou, enfin voilà, on est là quoi. Donc on sent notre odeur, le bruit, le visuel aussi, bien sûr. Et là, donc
Exactement, ouais.
les animaux vont nous détecter évidemment, parfois pas les déranger, parce que c'est comme ça, c'est ainsi, et parfois les déranger. C'est par rapport à, je voulais revenir un petit peu sur la photographie de voyage. Alors moi, je l'avoue de manière assez, comment dire, assez transparente en fait. J'avoue parfois, je pense que c'est une espèce de jalousie que j'ai quand je vois des photographies magnifiques de paysages. Alors moi maintenant, mais en tout cas à une certaine époque, j'avais un peu tendance à me dire, ah bah c'est facile, en gros il suffit d'être au bon endroit, tu vois. Je
Ah, mais c'est ça le plus dur.
comparais ça un peu de manière, comment dire, maladroite avec la photographie animalière, où là, parce que c'est ce que je pratique, et c'est ce que je connais finalement, donc je me disais, bah, c'est plus dur, là, l'animalier, il faut que l'animal soit là, il faut le repérer avant, il faut attendre longtemps parfois, quand il est là, il faut pas se planter parce que des fois, il reste 3 secondes. Donc, tu vois, il y a le côté éphémère, très éphémère de la photographie animalière,
C'est ça.
qui, moi, me l'a fait percevoir de manière très difficile. A contrario, le paysage, la montagne, la rivière, elle bouge pas, quoi, tu vois, elle est toujours là. Et donc, je me
Ouais, mais
disais, c'est plus simple, quoi, tu vois?
Ouais, mais à contrario, l'atmosphère change vachement. Je parle
Ouais.
surtout de la montagne où, bah, par exemple, il peut y avoir des nuages et je sais pas, en 30 secondes, bah, il y a un bout de ciel bleu, c'est les rayons du soleil qui percent, etc. Et ça te donne une photo incroyable. Donc, il y a vraiment ce côté-là aussi
Il y a aussi
où il faut être
le
là au
côté
bon
éphémère qui est
moment.
là, quoi, ça c'est
C'est
sûr.
ça, ouais.
Ouais.
Et il y a aussi ce côté où il faut aller le chercher, bah, surtout en montagne où bah, il y a du dénivelé, etc. Et je pense notamment à une sortie que j'avais faite, c'était pas cet été, mais l'été d'avant. J'étais allé au plateau de Bure, qui est dans le Dévoluy. Et en fait, ça, c'est à 2000 mètres d'altitude. Il y a une montée de 4 heures de rando, donc c'est assez intense. Et on arrive en haut sur un énorme plateau. Et en fait, c'est une station météo. Et il y a des immenses paraboles. Et j'ai passé toute la nuit à photographier la Voie lactée. Et ça donne des photos incroyables, quoi. Et ça, bah. Tout le monde peut le faire, mais il faut quand même se donner les moyens, quoi.
J'ai la photographie dont tu parles sous les yeux, astrophotographie sur ton site, hein, sur la page d'accueil, on la voit très très rapidement, elle est juste magnifique. Cette photographie-là, elle est très réussie, elle est très très belle, elle est surprenante, elle est impactante même. Mais voilà, en fait, en gros, quand on voit une photographie de paysage qui a plein plein de likes sur Instagram, et on se dit, en tout cas moi c'est ce que je peux me dire parfois, et je l'avoue, hein, ah bah c'est simple, c'était juste être là, mais en fait le juste être là, ben des fois derrière il y a 5-10 heures de marche, quoi. Et
C'est ça.
ou du bivouac sous tente dans des conditions
Exactement,
très complexes. Donc finalement, c'est bien, je trouve, d'avoir cette discussion-là, ça permet de comprendre. En fait, derrière chaque photo, il y a des difficultés. Ça, c'est sûr et
c'est ça.
certain. Et c'est juste que le fait que de ne pas pratiquer ce type de photographie-là nous fait méconnaître les difficultés et on pense que c'est facile, quoi. Mais en fait, jamais, jamais,
Après,
jamais.
il y en a aussi des faciles, hein, mais comme dans l'animalier où on peut prendre son chat, les oiseaux dans le jardin, même s'ils bougent quand même pas mal, hein, mais et dans chaque photo, en fait, soit il y en a qui sont difficiles à prendre, soit il y en a qui sont faciles. Enfin, ça, c'est pareil, je pense, dans tous les domaines de photo.
Avec quoi tu photographies, Guillaume? C'est quoi ton matériel de base pour la photo?
Moi, j'ai un Olympus OMDE Mark III, donc c'est un hybride. Pourquoi j'ai choisi un hybride? Parce que j'ai besoin de légèreté. Et quand je pars plusieurs jours en nature, en montagne, etc., c'est le meilleur rapport qualité-prix, poids, tout ce qu'on veut. Du coup, voilà, c'est essentiellement avec Olympus pour l'instant.
Pourquoi Olympus d'ailleurs? Parce que finalement, alors du coup, c'est en micro 4 tiers, c'est ça, je crois, Olympus,
C'est
hein.
micro 4 tiers, ouais.
C'est quoi, juste pour rappeler un petit peu la spécificité de ce genre de capteur-là, et pourquoi Olympus, du coup, et parce qu'il y a d'autres marques, hein, qui font aussi de l'hybride, évidemment.
C'est ça. Bah, en fait, micro 4 tiers, ça va être plus petit, par exemple. Le capteur va être plus petit qu'un réflexe, hein, qui lui sera en plein format. Et au niveau des objectifs, par exemple, là, j'ai un 12-40. Du coup, quand je suis à 40 mm, ça veut dire que si j'étais sur un réflexe, j'aurais l'équivalent à 40 fois 3, donc ça fait 120, je crois, ce serait
Ouais,
l'équivalent d'un 120 mm si je dis pas de
c'est à
bêtises.
peu près ça, peut-être,
Et
ouais.
du coup, ça c'est hyper intéressant pour moi, parce que notamment pour l'animalier. Parce que ça me permet d'avoir des focales bah, plus longues dans ce que je fais, dans les montagnes, enfin quand je suis en nature aussi, parce que j'aime beaucoup prendre les détails des montagnes aussi avec des zooms. Ça c'est intéressant. Et puis il y a aussi le prix, hein, qui est beaucoup moins cher que les réflexes. Et ça, bah, voilà, quand on débute, on n'a pas forcément les moyens.
Ouais, et
Et
puis après.
je suis un peu tombé par hasard chez Olympus, parce que je suis passé chez un photographe, il y avait une offre pour cet appareil-là. Et je l'ai, bah voilà, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai un peu commencé comme ça. J'ai acheté l'appareil avant de faire toutes les formations et voilà. Donc au début, je l'utilisais que en auto. Et après, petit à petit, bah, on apprend
Ouais, et
et
puis
voilà.
Olympus est évidemment une très très bonne marque, et ce micro 4 tiers a fait ses preuves très largement. Et l'avantage aussi derrière, c'est que les objectifs par rapport à un plein format, les objectifs sont moins chers en fait aussi.
C'est ça.
Hein, virer un objectif dédié au plein format, il va vite taper assez haut en termes de tarifs pour la même focale. Moi, j'ai aussi un hybride, je suis chez Fujifilm. Donc, c'est
D'accord.
pas un plein format. Hein, c'est pas non plus un micro 4 tiers, c'est un APS-C.
D'accord.
Voilà, donc qui est un peu plus grand, je crois, que le micro 4 tiers, qui est plus petit qu'un plein format, mais
Oui,
qui permet
c'est l'entre-deux.
effectivement. Ouais, c'est un peu entre les deux, ouais, qui permet effectivement d'avoir aussi des objectifs qui sont, allez, moins onéreux, peut-être. Je dis pas moins haut de gamme, mais en tout cas, moins 100 euros, ça c'est sûr et certain. Donc tu as quoi comme objectif? Parce que voilà, tu fais beaucoup de paysages, tu l'as dit, tu fais aussi de
Ouais.
l'animalier, donc il faut quand même une plage focale assez étendue finalement. Donc
C'est ça,
tu as
ouais.
quoi?
Alors, l'objectif que j'utilise le plus, c'est le 12-40 Pro. Donc, lui, il est à 2,8 en focus. Du coup, lui, c'est un peu mon préféré, parce que ce que je prends, bah, quand j'ai besoin, quand je prends juste mon appareil, je prends que cet objectif-là. 12-40 mm, c'est amplement suffisant pour, bah, voilà, quand j'ai juste besoin de ça, c'est parfait. Après, j'ai un grand angle qui va plus me servir pour l'astrophoto. Lui, il est à 7,5 mm
Ok.
et F2. C'est la marque Laowa. Tu dois
Ouais,
connaître,
bah
je
si, c'est
pense.
bien. Ouais, je connais. Je connais pas, mais je connais évidemment. Ouais, c'est très correct, hein, très très correct, ouais.
Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi un 75-300 en Olympus, et lui il est à F5.5 point
Ok.
quelque chose et 6.
Donc
Et
c'est
lui, ça va être.
pas une grosse ouverture.
Non, il n'y a pas une grosse
Ouais,
ouverture. Et
ouais.
justement, bah, j'aimerais bien un jour en racheter un
Ouais.
sur de l'animalier. De toute façon, on veut toujours s'acheter du matos,
Ah, on a toujours envie d'avoir plus, ça
mais
c'est sûr.
c'est ça.
C'est ça. C'est comme moi, je pense toujours à mon père qui me disait, de toute façon, quand on partait en vacances, le coffre était vide plein. Et je lui
Ouais.
demandais, mais t'as qu'à avoir un coffre plus grand. Et de toute façon, il me disait, ben, on aurait un coffre le plus grand, qu'on le remplirait pareil et que j'aurais toujours envie d'avoir un coffre plus
C'est
grand.
ça. Bah, c'est une belle image, ouais. C'est un
C'est
peu ça, c'est
exactement ça. Moi,
pareil.
je pense toujours à ça. Quand je veux m'acheter un truc, je pense toujours au coffre de mon père. Et finalement, je me dis que. Un peu satisfait. Ben, tu vois, finalement, la transition va être presque faite avec XP Cube. Parce que
Ouais.
finalement, tu vois, c'est un peu l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est un peu le coût du coffre. C'est un peu le coût de l'objectif. On veut toujours avoir un peu plus.
Ouais.
Se dire que c'est. Voilà. Dire que c'est mieux ce qu'on n'a pas, quoi, finalement. Tu vois, ce qu'on n'a pas, c'est toujours mieux. Et bien, justement, parlons de ça, du côté voyage.
Ouais.
Quand on pense voyage, on pense forcément déjà à partir de France, aller dans des pays exotiques, voire même carrément partir d'Europe, tu vois. C'est ce que
Ouais.
tu as fait toi, hein, il y a quelques années de
Oui,
ça.
tout à fait, ouais.
C'est quasiment, allez, le contraire finalement, l'opposé de ce que tu proposes, de ce que vous proposez avec XP Cube. Déjà, avant d'aller un peu plus loin, c'est quoi XP Cube? D'où ça sort, d'où ça vient et comment tu es rentré là-dedans?
Alors, en fait, moi, je travaillais, donc avant, comme je l'ai dit au tout début, pour Trek Magazine.
Ouais.
Et en fait, un de mes clients, c'était le patron de Point Voyage, donc une agence de voyage qui propose des séjours à l'international, donc voyage d'aventure. C'était mon client, donc on a sympathisé, maintenant on est amis. Et en fait, là, lui, la période a été compliquée avec le Covid, bah, tous les voyages ont été arrêtés. On s'est, lors d'une randonnée qu'on a fait, c'était vers le Mont Aiguille. Donc ça, c'est magnifique, c'était l'occasion d'y aller. C'est en dessous de Grenoble. On a discuté de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour relancer, hein, parce que le tourisme, ça va forcément repartir, l'aventure, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se lancer dans le tourisme et relancer un peu l'activité pour qu'on voyage. Et on a eu l'idée de créer cette marque, ce qui propose des séjours d'aventure, essentiellement en France. Donc on a aussi quelques séjours à l'étranger, mais la majorité des séjours, c'est en France, axé autour de l'aventure. Donc aujourd'hui, on a 18 thématiques. On a tout ce qui va être stage de survie, stage de bushcraft, on a de l'alpinisme, du canoë, on a de la randonnée, du trekking, rando avec âne, des stages de trail, de la spéléo, donc plein de trucs autour de l'aventure. Voilà, moi, l'idée, c'était vraiment comment je peux allier mes deux passions, vivre des aventures et en plus la photographie. Parce que moi, ça va me permettre aussi de faire toute la communication, utiliser toutes mes photos. Et voilà, ça me permet de faire des choses que j'aime. Et en plus, partager un peu bah, ce que moi, j'ai pu vivre dans le passé et actuellement avec mes voyages et ce que je vis autour de Grenoble, bah, même en France, parce que je voyage aussi en France. Et voilà.
La volonté de proposer des séjours, des micro-séjours, des micro-aventures en France, c'était lié à la contrainte du Covid. En gros, en se disant, bah, de toute façon, imaginons un monde où on puisse plus voyager pendant des années, il faut être en France. C'était ça la vraie contrainte au départ ou c'était une autre raison aussi
Non, pas
peut-être?
que. Moi, j'y réfléchissais depuis un certain temps, même avant le Covid, parce qu'en fait, la micro-aventure, j'en fais depuis que je suis rentré de Nouvelle-Zélande et que j'ai fait mon ultra-aventure en Nouvelle-Zélande pendant 3 mois. Voilà, la micro-aventure, c'est des petits séjours de 2-3 jours où on part en randonnée, par exemple. On va dormir dans des cabanes non gardées, en bivouac. Découvre en fait, on vit des expériences, des mini-expéditions, et c'est un peu c'est mon quotidien en fait. Moi, je pars souvent comme ça, et j'ai envie de partager toutes les émotions que je peux vivre. Voilà, quand on arrive dans une cabane non gardée, alors qu'il y a de la neige, on arrive en raquette ou en ski, c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve. On est en pleine nature, on respire l'air pur. Quand je pars 2-3 jours, j'ai l'impression d'être parti une semaine, quoi. Et c'est vraiment ressourçant. Et voilà. Et puis c'est accessible pour tout le monde. On a de la chance d'avoir plein de guides en France qui permettent de faire ça de façon sécurisée. Je pense notamment à l'alpinisme parce qu'on peut pas partir tout seul en alpinisme. Il faut même sur plein d'autres choses. Ils nous apprennent plein de compétences et voilà, c'est un peu ce voilà, j'ai envie de partager. ExpecCube, ça montre un peu comment moi je vis au quotidien, quoi. Et j'ai envie de partager ça.
Alors je voudrais, c'est génial parce qu'effectivement, de toute façon, quelque part, c'est un peu aussi dans l'air du temps, c'est un peu du, comment dire, on n'est plus dans l'ère des années 80, 80, 90, 2000. De toute façon, il est clair que le septembre 2001 aussi a été un bouleversement hein, par rapport aux attentats. D'ailleurs, on a célébré, plutôt que fêté, on a célébré les 20 ans il n'y a pas très très longtemps. Mais c'est vrai que, bon, on sent qu'il y a une espèce de changement aussi quand même de vision du monde hein, par rapport à nous occidentaux qui est celui de peut-être vivre des choses plus intenses mais plus proches plutôt que de devoir partir très très loin. Donc ça, je pense que c'est quand même plutôt pas mal, ce qui n'empêche pas de vouloir partir très loin si un jour on veut
Non.
partir très loin, hein,
En
clairement, hein.
fait, on peut voyager encore, mais il faut le faire pour des bonnes raisons
Ouais.
et mieux le faire. Peut-être moins souvent. Et c'est un peu. Du coup, nous, on a tout notre côté micro-aventure avec Spectio, mais on va aussi proposer des ultra-aventures, ce qu'on appelle. Donc, ça va être des expéditions un peu plus lointaines. Parce qu'on veut répondre à aussi cette demande de rendre accessible l'aventure à tout le monde. Donc, que ce soit pour les néophytes, les aventuriers, voilà, qui veulent partir juste quelques jours de temps en temps, les week-ends, etc. Mais aussi les vrais. Enfin, les vrais, je dis les vrais, c'est pas les vrais. Mais les confirmés qui eux ont besoin de partir plus longtemps sur des objectifs plus longs. Après, on va toujours essayer de mettre dans ces ultra-aventures un peu de côté humain aussi, aller à la rencontre des peuples. Par exemple, là, on a un séjour qui va se mettre en place normalement au Canada. Ça va être l'ascension du Mont Logan, qui est l'un des plus hauts sommets du Canada. Et en fait, pour aller sur cette montagne, on va demander l'autorisation aux Premières Nations du Canada. Du coup, on va partir un an avant pour aller leur demander l'autorisation parce que c'est une montagne sacrée pour eux et on veut faire les choses dans l'ordre, aller à la rencontre, un peu sensibiliser les gens sur ce peuple qui sur ce peuple qui est un peu méconnu, et voilà, toujours amener un petit côté humain là-dessus, et voilà.
Non, c'est super intéressant parce que finalement, ce concept-là que vous avez et que d'autres ont aussi finalement, c'est de dire on peut vivre des choses incroyables, fortes, enrichissantes tout près de chez nous, qui peuvent nous changer notre vision, notre façon de voir la vie en étant à quelques kilomètres de la maison. Hein, j'exagère un peu, mais vraiment l'idée, c'est celle-ci. Mais on peut aussi toujours continuer à aller vraiment à l'autre bout du monde, moins souvent, de manière plus sensé, plus réfléchi, plus consciente, parce que c'est aussi ces voyages-là qui peuvent complètement changer des vies. Une fois de retour en France, parce que notre vie a été changée par un grand voyage, un lointain voyage, nous permettent de mieux vivre après au quotidien, ou en tout cas de vivre différemment. Donc vraiment, c'est allier un petit peu tout ça de manière plus consciente, plus réfléchie, et votre XP Cube le permet et le permet parfaitement. Je voudrais faire une parenthèse par rapport au nom que vous avez trouvé qui est vraiment génial. Tu l'as dit, c'est XP Cube, donc trois fois. Ouais. Expédition, exploration, expérience. Ouais. Je voudrais revenir sur la notion de comment on fait pour choisir un nom quand on veut se lancer. Pourquoi je parle de ça? C'est que moi qui coach des photographes qui veulent lancer un business, reviens très rapidement la problématique du nom, tu vois. Le nom de ma marque, le nom de mon produit, le nom de mon offre, comment je m'appelle, avec quel nom je communique. Et c'est toujours, alors parfois ça peut être très simple, c'est nom, prénom et on en parle plus, c'est ok, mais certains veulent vraiment avoir quelque chose qui va les différencier, qui va que leur nom exprime en quelques syllabes ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent faire. Comment vous, avec, j'ai oublié le nom de ton collègue, je suis désolé Guillaume.
Ouais, Kevin Gérard.
Avec Kevin Gérard, comment vous avez réfléchi pour trouver ce nom-là, XP Cube, qui est très bien, qui paraît très simple, mais qui au final a dû demander, j'imagine, quand même pas mal de réflexion.
Alors ça, en fait, ça a été des longues discussions. Kevin, il avait déjà eu un petit peu aussi cette idée. Il recherchait un peu un nom autour d'une nouvelle marque qu'il voulait lancer aussi, plus sur lui, plus que des ultra-aventures ou des choses un petit peu, tout ce qui va être alpinisme, etc. Et il avait pensé justement à XP Cube, mais EXP et le cube.
Okay.
Et du coup, moi, je trouvais que c'était moins parlant que XP avec le E à la fin, parce que une XP, ça s'écrit avec un E à la fin. Et du coup, ça a été des discussions avec lui. On s'est demandé, qu'est-ce que ça représente, etc. On est tombé d'accord sur expédition, exploration, expérience. Et voilà. Mais le nom, il vient de Kevin à la base. Okay. Et moi, quand tu m'as dit le nom d'XP Cube, j'ai trouvé ça génial. Même si parfois les gens ils disent XP 3,
etc. Je l'ai fait.
Mais tout le monde. Hein. Mais voilà, faut que le chemin se fasse dans la tête des gens. Faut qu'on se fasse connaître aussi Mais c'est plus ça va se développer. On a mis les petits mots aussi en dessous du logo, donc ça permet de s'approprier ça. Mais c'est vrai que le petit 3, on peut pas trop le mettre sur les ordinateurs, etc. Donc pour la com.
Tu veux dire que le petit 3 en mode cube. Petit surélevé, c'est compliqué à mettre.
C'est compliqué à écrire. Ouais. Il faut sortir les emoticônes et sortir le petit 3 qui est dessus. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais.
D'accord.
Les gens vont écrire XP3 et ça me dérange pas du tout.
Bien sûr.
J'appelle ça XP3. Mais voilà, le vrai nom, c'est XP cube, XP puissance 3.
D'accord. Voilà.
Tant qu'ils disent XP et qu'ils s'apparentent à nous, c'est pas un problème.
C'est le principal. Alors, revenons un peu à la photographie encore. Donc, tu l'as dit, il suffit d'aller voir sur le site. Hein. Donc, du coup, le site, c'est www.xp, alors EXPE3, hein. Voilà, on est obligé de le dire, .com.
Ouais.
Donc, effectivement, on se rend compte vous proposez plein de choses, survie, bushcraft, alpinisme, canoë. Donc, voilà, hein, expédition, exploration, expérience et stage photo.
Exactement.
Donc là, ça, si je clique dessus, c'est toi qui met en place ça. Quelles vont être finalement les choses que tu vas proposer pour les photographes, parce que là, on s'adresse à des photographes, donc c'est pour eux ce genre de choses-là. Est-ce qu'on va retrouver dans ce que tu proposes en photographie dans Explicum, est-ce qu'on va retrouver l'expérience de l'exploration, ces choses-là?
Exactement. L'idée, en fait, c'est vraiment de proposer de la formation sur la photo, mais tout en restant dans l'aventure. Donc pour l'instant, j'ai 3 séjours que j'ai fait avec quelqu'un que tu connais, c'est Sandra Bérénice Michel.
Bien sûr, que j'ai interviewé également sur le podcast, bien sûr.
Ouais. Exactement, qui est vraiment une photographe superbe et qui fait plein de choses dans sa vie. Elle défend vachement la biodiversité. Je sais qu'elle a travaillé avec Ushuaïa là, il y a pas longtemps. Et du coup, je l'ai juste contactée sur Instagram. On a discuté, ça a tout de suite accroché. Et on a mis en place ces séjours-là. Donc ces séjours, ça va être des séjours de 3 jours. On en a un dans le Beaufortin, un dans le Cap Cyr et un dans le Haut Languedoc. Et ça va être du coup des treks. Donc on part en trek pour faire de la photo animalière.
Ça s'adresse à des personnes qui veulent photographier la nature sauvage, donc les animaux sauvages. Il faut avoir un peu quand même de... Je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent « Ah, c'est chouette, c'est intéressant », mais voilà, Régis et Guillaume parlent d'exploration, d'expédition, d'expérience. Il faut être jeune, il faut être costaud, il faut être sportif. Est-ce que c'est le cas ?
Sur ces séjours-là, ouais.
Il
faut quand même être un peu sportif. Il y a 1000 mètres de dénivelé à peu près par jour. Donc c'est vraiment destination de sportifs qui aiment la photo et qui veulent partir à l'aventure. Et il y a ce côté-là photo en plus du coup où Sandra va pouvoir bien les former, comment on fait un affût, etc. Et je suis aussi en train de mettre en place d'autres stages photo sur de l'astrophoto. Du coup ça va être de l'astro bivouac. Du coup ça va être mis en place prochainement. On est en train d'en discuter avec je suis en discussion avec 2 guides pour faire ça et 2 photographes et ça va être partir bivouaquer la nuit quelque part là où il n'y a pas trop de pollution lumineuse et apprendre à faire de l'astrophoto. Donc voie lactée, étoiles filantes, tout ce qu'il y a dans le ciel, satellites, etc. et lune.
En termes de compétences photo, ça s'adresse à des personnes qui savent déjà photographier ou c'est vraiment pour les débutants? Comment faut situer par rapport à ça?
Non, il faut que ce soit quand même quelqu'un qui ait son propre appareil. Peut-être qu'un jour je proposerai de la location là-dessus, mais on n'a pas encore les moyens là-dessus. Mais après, si on est débutant et qu'on a son propre appareil photo, on peut bien sûr y aller. Ça, c'est pas un souci. Nos guides, ils pourront tout à fait former les gens là-dessus, leur apprendre la base. Parce qu'en soi, la photo, c'est pas si compliqué. Il faut, je trouve que c'est limite plus facile d'apprendre en direct quand quelqu'un te montre plutôt que d'aller lire des pavés. Quand quelqu'un t'explique par la voix ou en montrant avec la vidéo, etc., c'est quand même bien plus simple.
Ouais, carrément. Et en plus, il y a le côté émulation qui s'opère pendant les stages comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as le formateur qui t'apprend, mais tu as aussi les échanges très informels entre les participants qui vont aussi, moi je fais comme ça, ah c'est pas mal, bah oui, tiens, je vais essayer, ah bah c'est génial, ça marche bien pour moi aussi.
Avoir plein de petits conseils de tout le monde.
C'est absolument, absolument génial et ça peut vraiment parfaitement, tu vois, moi qui fais et qui, alors j'en vends peut-être moins maintenant parce que c'est moi mon cœur d'activité, je suis vraiment dans le coaching pour les photographes qui veulent développer un business, mais pendant très longtemps j'ai créé et vendu des formations en vidéo pour que les gens puissent apprendre la photographie animalière et de nature en règle générale. Et c'est vrai que c'est un bon moyen d'entrer dans ce monde-là, hein, de la photographie, mais qui peut être parfaitement complété, voire même plus que complété, avec des stages comme ça, où tu apprends différemment, peut-être même plus en profondeur aussi, où tu peux expérimenter. C'est vraiment intéressant de voir partager comme ça cette technique photo avec d'autres personnes, de pouvoir confronter sa technique photo apprise des fois un peu sur le tas, la confronter avec d'autres personnes, c'est hyper hyper enrichissant. Donc là voilà, on est dans le mode micro aventure, pas trop loin finalement.
C'est vrai que c'est assez accessible.
Tu disais tout à l'heure, l'idée c'est que on part 3 jours et que quand on revient, on a l'impression d'avoir passé une semaine aller à l'autre bout du monde. C'est un peu ce que tu as toujours en tête finalement dans tes stages photos.
Ouais, exactement. Surtout ces stages photos, par exemple, le stage photo dans le Beaufortin, qui dure 3 jours, là, on a l'impression de plus d'être parti un mois. Parce qu'on est vraiment en pleine nature, on bivouaque, on voit des choses différentes, tout ce qu'il va y avoir comme être en forêt, on va être en haute montagne, enfin, on va voir plein de choses différentes dans un temps vraiment imparti. Et voilà, il va y avoir le côté aussi formation photo où on va apprendre à gérer son appareil pour les débutants. Après, il y en a qui veulent les confirmer, ils vont pouvoir prendre plein de plaisir aussi à se développer là-dessus, à apprendre à découvrir des paysages extraordinaires. Et voilà, c'est vraiment voilà, s'évader en fait.
S'évader, donc bon, voilà, tu l'as dit, il faut avoir quand même un peu de bagage
Oui,
physique finalement.
exactement. Ouais.
C'est important, ça ne s'adresse pas, bon, ben voilà, à des
Pour
personnes.
ces séjours-là, non, mais les
Non.
séjours qu'on va mettre en astro-bivouac, par exemple, là, ce sera accessible à tous.
Par rapport au post-traitement, est-ce
Ouais.
que c'est quelque chose aussi que vous pouvez travailler dans ces stages-là? Parce que finalement, bah, vous n'avez pas accès à une salle où tu peux projeter les photographies tu vois, faites pendant la journée des élèves. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aussi aborder?
Alors, pas encore. C'est après peut-être que voilà la guide par exemple Sandra elle va en parler pendant le stage photo, ça c'est à elle de décider, mais nous on n'a pas de stage dédié au post-traitement.
Comment tu t'es senti? Sur le côté formation photo, formateur photo, est-ce que tu as eu à faire un gros travail sur toi dans le sens où, et voilà, est-ce que tu es passé par cette phase de est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai assez comment dire, d'expérience, est-ce que mes photographies que je peux montrer en communication, est-ce qu'elles sont assez bonnes pour que les gens aient envie de me suivre? Voilà, ce côté un peu syndrome de l'imposteur, tu vois, toi, est-ce que tu l'as ressenti? Si oui, comment tu fais pour lutter contre quelque part? Voilà.
Disons que j'ai essayé de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que quand il y a eu le confinement, c'est en fait à cette période où j'en ai profité pour me former sur de la vidéo et de la photo. Donc comme je te disais, voilà, quand je regarde mes anciennes photos, etc., j'aime pas du tout ce que je faisais. Et voilà, ces formations, ça m'a permis de gagner en compétences d'un point de vue photo, post-traitement, etc. Et maintenant, j'aime beaucoup le rendu et je crois en mes photos, je crois en mes vidéos, je crois en ce que je fais. Je pense que c'est important de façon d'y croire et de pas se dire bon, on verra si ça passe. Voilà, je tente, etc. Faut vraiment se donner tous les moyens. J'ai fait plein de formations aussi pour par exemple organiser mon temps, organiser voilà comment s'organiser. Comment être productif, etc. Voilà, je pense qu'il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Il y a plein de choses qui sont possibles. On peut avoir accès à plein de choses sur Internet, même des choses pas forcément payantes. Enfin, il y a des choses qui sont gratuites aussi. Si on veut se renseigner, on peut. Et voilà. Et après, là, moi, j'ai 31 ans. C'est le moment où je me dis, il faut que je prenne des risques si je veux que mon métier me plaise, si je veux essayer de vivre de ma passion, etc. C'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Ce sera pas 80 ans,
Non, ça
quoi.
c'est sûr. Ça c'est sûr.
Après, à chaque âge, on peut prendre des risques, hein, mais voilà, c'est des risques peut-être plus mesurés. Là,
Mais non, ce qui est important, tu as prononcé un mot qui est comment dire, fondamental, c'est la confiance. Et en fait, ça me fait. Alors, bon, voilà, l'actualité, elle est comme celle-ci, et donc ça me fait penser à ça. Mais voilà, Bernard Tapie est décédé hier. On est dimanche, là, enfin, on est lundi 4 octobre. Il est décédé dimanche 3 octobre. Pourquoi je parle de lui? C'est parce qu'en fait, bon, moi, ça me fait rappel à mes souvenirs des années 80, effectivement, le côté foot. Côté OM et tout ça. Donc forcément, moi, ça m'a un petit peu ravivé ces souvenirs-là de cette époque, ouais, quand j'avais 10-15 ans. Donc c'était, bon, voilà, c'est un moyen, malheureusement, de se replonger un peu là-dedans. Mais non, surtout, du coup, je suis allé voir quelques interviews de Bernard Tapie. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai lu un peu sa bio, finalement, c'est un peu triste. Hein, on s'intéresse à la biographie des gens quand ils sont morts, quoi. Donc c'est toujours un peu dommage. Mais voilà, bon, en tout cas, j'ai lu un petit peu sa bio rapidement. Et ce qui est ressorti très vite, bon, au-delà de ses affaires et tout ça, de ce côté affairiste, bon, voilà, on passe là-dessus. Mais c'est surtout son état d'esprit de gagneur, absolument assez, vraiment incroyable, quoi. Et donc, j'ai écouté une interview de lui, mais il avait peut-être 30 ans, hein, le gars. Hein. À 30 ans, il avait des. Non, ou peut-être 35 ans, peu importe, mais il avait racheté. des entreprises, le Club Med, Trigano, Look, je veux dire, à 35 ans, il avait fait des choses que moi, je ferais jamais. Enfin, tu vois, c'est assez incroyable. Et je me demandais, mais comment ce gars-là, à 35 ans, va arriver à soulever des montagnes, à racheter des entreprises, à acquérir la confiance des financeurs, des banques et tout ça? Et la réponse, il me l'a donnée, en fait, dans la suite de l'interview, ben, c'est la confiance. Voilà, c'est la confiance.
C'est ce donne, d'accord, c'est la confiance. Un état d'esprit qu'il faut avoir. Ouais.
Exactement. Et alors la confiance, tu me diras, il y en a qui vont se dire, oui, mais la confiance, ce Bernard Tapie là, c'était inné chez lui. Probablement qu'il avait des dispositions mentales pour avoir une confiance plus forte que les autres. Ceci étant dit, c'est pas parce que ça peut être inné ou moins inné chez certains qu'il n'y a rien à faire, quoi. Et la confiance, c'est comme un muscle, elle se développe. Et toi, tu l'as très bien dit. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété. Tu t'as dit, j'ai fait les choses dans l'ordre. En fait, tu t'es formé. Tu as pris le temps d'apprendre. Tu t'es formé intelligemment, mieux s'organiser, apprendre la photographie. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont concourir au fait que tu vas prendre confiance, tout simplement, dans ta pratique photo. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça peut être, tu peux partir de plus ou moins loin, mais la confiance, elle se travaille.
Exactement, ouais. C'est tout à fait ça. Et il y a aussi cet état d'esprit où, moi, personnellement, j'essaie d'être toujours optimiste. Et voilà, dès qu'il y a un problème, il faut essayer de trouver une solution. Et de toute façon, tous les problèmes se règlent.
Et alors, des fois, on a un peu il y a un problème qui arrive, mince, on peut avoir, et peut-être, j'imagine que toujours, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne finalement. Et rien n'est facile dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Sûr, ouais. C'est vraiment c'est l'ascenseur émotionnel constant. Dans une même journée, on peut avoir des moments d'euphorie incroyables. Et puis après, être hyper découragé. Et ça m'est arrivé des fois dans une même journée. C'est assez fou, mais c'est comme ça. Et voilà, quand un problème arrive, évidemment, t'as peut-être un peu cette phase de découragement. Tu te dis, mince, et pourquoi encore? Et pourquoi ça m'arrive? Et qu'est-ce que j'ai fait, quoi?
Mais et très, très vite.
Faut rebondir, exactement, quoi. Très très vite, faut rebondir et une espèce de résilience. Et tu vois, je reviens sur ce Bernard Tapie parce que finalement, il avait aussi ce côté, la résilience. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe. Après, il les a provoqués, forcément, ces tuiles-là. Il est loin d'être tout blanc, évidemment. Il cherche pas à le défendre, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce côté résilient est hyper important dans l'entrepreneuriat. Donc, quand on veut se lancer dans le business photo en particulier.
Il faut jamais lâcher.
Jamais lâcher.
Et toujours se remettre en question.
Ouais.
Ça, je sais qu'au début, moi, quand je me formais, je faisais mes retouches photos, etc. Et j'acceptais mal les critiques. Parce que moi, j'avais l'impression de faire des trucs trop bien, parce que c'était nouveau, j'avais l'impression de progresser, etc. Et quand je demandais autour de moi, ils me disaient, elle est pas top celle-là, j'aime pas trop les retouches. J'avais du mal à accepter. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut accepter. Enfin, si les gens n'aiment pas. Et voilà. Après, on peut pas plaire à tout le monde aussi en photo. Ça, il me semble, j'avais entendu ça d'un de tes potes qui a.
C'est possible. Et c'est vrai.
Je pense que c'est. Ouais, exactement. Et faut faire quelque chose qui nous plaît. Et voilà, accepter la critique, parce qu'il y a des critiques constructives, et ne jamais lâcher, quoi.
Exactement. Bah écoute, sur ce mot, je te propose de mettre la fin sur ce podcast qui était génial. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci à toi, merci.
D'avoir pris le temps de répondre à mes questions, de partager ton expérience de vie, de photographe, de donner des conseils, des astuces, c'était vraiment top. Un grand merci, Guillaume.
Eh ben merci beaucoup à toi. Et puis à bientôt.
À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour le prochain rapidement. D'ici là, portez-vous bien, faites des photos qui vous plaisent et n'oubliez pas, passez à l'action est le meilleur moyen d'avoir des résultats.